Philosophie du vivant, Père Philippe, 17 novembre 1982, Rimont.
Alors des questions simples, mais qui sont importantes à réfléchir dessus. Qu'est-ce que la conscience? Nous mettrons longtemps à comprendre exactement ce que c'est que la conscience. C'est une des choses les plus difficiles à saisir exactement. C'est cette espèce d'auto-lucidité que nous avons sur notre propre activité. Il y a des actes qui ont une lucidité interne. Alors on a conscience. Avez-vous conscience quand vous mangez du pain de l'assimiler? Vous avez conscience que vous mangez du pain, mais vous n'avez pas conscience de l'assimilation. Sauf quand ça fait très mal, alors vous dites j'ai mal à l'estomac. Là, vous avez conscience d'avoir mal à l'estomac. Vous n'avez pas conscience de l'assimilation biologique. La preuve, c'est que quand ça va très bien, vous n'en faites aucune attention. Je digère très bien mon repas d'aujourd'hui. C'était tout à fait digestible, n'est-ce pas? Et donc, ça va très bien. Tandis que si c'était quelque chose de trop lourd, eh bien oui, c'est difficile. Vous voyez, j'ai conscience que de fait d'avoir certaines douleurs. La conscience de la vision. C'est intéressant de se poser la question comme ça, vous savez. Est-ce que vous avez conscience de voir? Et quand vous avez mal aux yeux, vous avez chez l'opticien, et puis qu'il vous pose des petites questions, tiens, je n'ai pas attention, attention. Je n'ai pas fait attention à ça. Est-ce que vous avez conscience de ce que c'est que la vision? Vous avez la conscience d'être éveillé, de regarder. Je vous regarde. Est-ce que j'ai conscience de la vision que j'ai de vous? Je vous vois. Qu'est-ce que c'est que de vous voir? C'est pas si commode que ça de savoir ça. Qu'est-ce qui se passe quand je vois quelqu'un? Quand je vois une fleur? Quand je vois... Est-ce que quand je vous vois, je vous change? Non. Sauf si j'ai le mauvais œil. Alors à ce moment-là, simplement de regarder. Regarder quelqu'un, c'est dangereux. C'est dangereux. Tandis que normalement, non. Je ne change pas et je suis changé parce que je vous vois. Je n'ai pas conscience de ce que c'est que cette assimilation particulière qui se réalise au niveau de la vision. On le verra, on essaiera d'étudier. Tandis que quand je pense, j'ai conscience de penser. J'ai non seulement conscience de penser, de l'exercice de ma pensée, de mon application, mais j'ai conscience aussi qu'il y a quelque chose de spécial. Je porte en moi quelque chose. Il y a une espèce de lucidité beaucoup plus grande dans la pensée que dans la vision, que dans l'assimilation. Alors vous voyez, c'est pour caractériser cette opération spirituelle qu'on appelle la connaissance, qu'on dira que la connaissance a conscience. C'est un très gros problème, on le touchera, c'est un très gros problème de savoir s'il y a une conscience propre à la sensation. Aristote se pose la question. Et on doit se poser la question, est-ce qu'on a conscience, non pas de l'intelligence uniquement, mais est-ce qu'on a conscience à l'intérieur même de la vision? Quelle est la conscience que j'ai de voir, de toucher? Est-ce que c'est extrinsèque à la vision? Est-ce que c'est extrinsèque au toucher ou c'est intrinsèque au toucher et intrinsèque? C'est pas si commode que ça de bien se le dire. Alors, qu'est-ce que c'est que la conscience? Je crois qu'on peut dire, c'est cette auto-lucidité de ma propre activité vitale. C'est une lucidité qui vient de l'intérieur. Tandis qu'il peut y avoir une lucidité qui vient de l'extérieur. J'éclaire, j'illumine. Quand vous êtes éclairé par un bec de gaz, n'est-ce pas? Alors vous êtes éclairé de l'extérieur, c'est bien évident. Ce n'est pas vous qui projetez une lumière sur votre papier. On voudrait bien, de temps en temps. Eh bien non, ce n'est pas nous. Ça vient de l'extérieur. C'est de l'extérieur qu'on illumine. Tandis que là, c'est de l'intérieur qu'on est illuminé. C'est propre de la conscience. La conscience est donc cette auto-lucidité de ma propre activité vitale. Alors, voyez, quand on dit lucidité et conscience, ont-ils la même signification? J'explique la conscience par la lucidité. Et je n'explique pas la lucidité par la conscience. Parce qu'il y a des choses lucides qui ne sont pas conscientes. Lucidité, c'est quelque chose qui est illuminé, qui est lucide, limpide. C'est ça, la limpidité. Ça touche à la simplicité. Il n'y a pas d'opacité. Chose qui n'est pas opaque. Mais quand vous avez une opacité en vous, une opacité boueuse, c'est pas très opaque. Quand je remue, faites attention, c'est d'une opacité effrayante. Et vous voyez l'opacité qui monte. Hein. De temps en temps, au point de vue psychologique, il y a des opacités qui montent, comme ça on le sent très bien, comme un brouillard qui monte. Tandis qu'au contraire, on est lucide, c'est limpide. Vous voyez, la limpidité, la lucidité vont expliquer ce que c'est que la conscience. C'est une auto-lucidité. On est lucide par l'acte même. C'est l'acte même qui implique cette lucidité. Alors, je peux distinguer deux consciences. Une conscience qui est à l'intérieur de cette auto-lucidité, et je peux regarder aussi une réflexion sur ma propre activité. Je peux réfléchir sur ma propre activité et essayer de comprendre que ma propre activité, je peux y réfléchir et prendre ma propre activité comme objet de ma réflexion. Je réfléchis alors sur mon activité vitale. Et en réfléchissant sur mon activité vitale devient l'objet de ma connaissance. Vous voyez, c'est la double réflexion. J'ai une double réflexion, donc j'ai une double conscience. J'ai une conscience dans l'exercice même de mon acte vital, et j'ai une conscience quand je réfléchis sur mon acte vital. Et c'est deux choses différentes. Qu'entendez-vous par avoir conscience de ses opérations vitales? C'est cette auto-lucidité. La conscience, est-ce l'esprit ou se distingue-t-elle de l'esprit? Ça, c'est une question très intéressante à se poser. Je crois que la conscience, c'est la propriété de mon opération intellectuelle. Donc c'est l'esprit en tant qu'il est capable de connaître. Ce n'est pas l'esprit en tant qu'il est capable d'aimer. Est-ce que l'amour est conscient? Ou est-ce que l'amour est conscient uniquement par le point de vue de la connaissance? Autrement dit, la conscience est-elle la propriété d'un acte d'intelligence? Ou la conscience est-elle la propriété d'un acte d'amour? Ça, c'est une question qu'on doit se poser. C'est pour ça que cette question, l'esprit implique l'intelligence et implique ma capacité d'aimer. L'esprit implique les deux. Alors, est-ce que ma conscience est attachée à l'intelligence ou est-ce que la conscience est attachée à l'appétit? À l'appétit volant, appétit d'amour. Bien, je crois que la conscience est toujours liée à l'intelligence. On essaiera de le voir, ça. Je vous demande maintenant d'y croire et d'y réfléchir, hein. Essayez de comprendre ça, vous n'avez qu'à essayer de saisir pourquoi la conscience n'est pas attachée à l'amour. Parce que l'amour a un mode de tendance et d'appétit, tandis que l'intelligence a un mode d'assimilation. C'est à cause de ça qu'elle peut être auto-lucide, tandis que l'appétit a un mode de poids, comme dira saint Augustin. Abor pondus, l'amour c'est mon poids. Quand on aime, on est porté vers. Il y a une inclination vers. Tandis que quand on connaît, on porte celui qu'on connaît au plus intime de nous-mêmes. On n'est pas porté vers l'autre quand on connaît. On garde en soi. Ça, c'est le propre de la connaissance. La connaissance fait qu'on garde en soi. Et c'est parce qu'on garde en soi qu'il peut y avoir cette auto-lucidité. Parce qu'il n'y a plus du tout d'extérieur, il n'y a plus du tout de juxtaposition. La juxtaposition s'oppose à la conscience. Parce que, voyez-vous, on quitte un endroit pour aller vers autre. Le devenir s'oppose à la conscience. Alors il peut y avoir un devenir lucide, c'est le propre de l'intelligence. Et ce devenir lucide de l'intelligence peut impliquer une certaine connaissance. Pourriez-vous développer ce que vous dites de Merleau-Ponty sur la conscience? Ah oui, la conscience de Merleau-Ponty. Je disais tout simplement que la conscience fait que nous n'avons pas conscience. Vous voyez bien, la double conscience. La conscience fait que nous n'avons pas conscience de la distinction de l'âme et du corps. Sauf dans les rêves. Dans les rêves, vous pouvez avoir subitement un rêve que votre âme quitte votre corps. Et quand vous vous réveillez, vous vous apercevez que ce n'est pas vrai. Vous n'avez jamais conscience de la séparation de l'âme et du corps. Vous avez conscience d'actes plus ou moins conscients. C'est pour ça que je prenais le fait d'opposer le fait de dormir. Vous n'avez pas toujours conscience de dormir. On se repose mieux du reste. Quand on a conscience de ne pas de quand on n'a pas conscience de dormir, on se repose beaucoup mieux. Alors ça a passé, la nuit a passé comme un instant. Je m'endors comme un plomb, et je me réveille, je ne sais pas comment, avec des ailes. Mais je m'endors comme un plomb, d'un seul coup. Pouf, ça y est. J'ai aucune conscience d'avoir dormi. Puis tout d'un coup, on me réveille. Je n'ai pas eu conscience de dormir. Alors on a un sommeil profond, comme on dit. Et ce sommeil profond, peut-être très profond, il ne faut pas qu'il soit trop profond, mais il peut être très profond. Et alors quand il est très profond, j'ai même plus conscience de dormir. Et je me suis très bien reposé. C'est un repos de plus avoir conscience. C'est vrai, c'est très vrai ça. C'est d'avoir toujours conscience, ne plus dormir, vous voyez. Marthe ne dormait plus. Quelquefois, n'est-ce pas, on a cette espèce d'angoisse, vous savez, on n'arrive pas à dormir. Hein. Alors on dit, je vais rester toute la nuit à avoir conscience de ne pas dormir. Et avoir conscience de ne pas dormir, de voir que le sommeil s'échappe dès qu'on veut. On n'arrive pas. C'est très très mystérieux, du reste. C'est très mystérieux le sommeil, vous savez, on ne sait pas ce que c'est. Hein. On peut vous donner des produits pour essayer de dormir, ça réussit plus ou moins bien. On peut vous donner des tisanes qui vous apaisent et qui vous font dormir, mais c'est très mystérieux de savoir ce que c'est que le sommeil. Le sommeil, cette espèce de chose inouïe, qu'on échappe à la conscience. Alors Merleau-Ponty veut nous dire, n'existe que ce dont on a conscience. Vous voyez, ça, c'est le propre de la phénoménologie. Parce que c'est l'intentionnalité qui est le réel. Or, la conscience, c'est un phénomène d'intentionnalité intellectuelle. Voilà la meilleure définition de la conscience. C'est tellement bon qu'on n'y comprend rien. Vous prenez ça comme, mettez ça comme définition de la conscience. La conscience, c'est la lucidité de l'intentionnalité intellectuelle. C'est l'auto-lucidité de l'intentionnalité intellectuelle. C'est vrai, c'est l'intentionnalité intellectuelle en conscience. Et la conscience, c'est ce tissu d'intentionnalité qui n'a pas d'extériorité et donc qui peut être lucide et avoir cette auto-lucidité. Alors, dans l'intentionnalité, si je mets l'intentionnalité comme l'absolu, si je n'ai pas conscience de la distinction de l'âme et du corps, je dis, il n'y a pas de distinction de l'âme et du corps. Parce que je n'en ai pas conscience. Mais nous disons que notre intelligence peut aller plus loin que ce dont elle a conscience immédiate. Il y a des consciences médiates. Et il n'y a pas que l'inconscience immédiate. Autrement dit, dans l'ordre de la conscience, il y a différentes demeures. Quand je raisonne, quand je fais une induction, je conclus quelque chose, je découvre quelque chose dont je n'ai pas immédiatement conscience. Je n'ai jamais immédiatement conscience de la distinction de l'âme et du corps. Ce n'est pas parce que je n'ai pas immédiatement conscience de l'âme et du corps que la distinction de l'âme et du corps n'est pas réelle. Mon intelligence va donc plus loin que la conscience immédiate. Alors ça aussi c'est un problème très intéressant. De ne pas ramener l'esprit à la conscience. De ne pas ramener le réel à la conscience. Et de comprendre que le réel va plus loin que la conscience. Alors vous allez me dire, mais comment ça se fait? Puisque je ne peux connaître le réel que si ça passe par l'intelligibilité, par l'intentionnalité Et que si ça passe par la conscience? Comment se fait-il que mon intelligence est allée plus loin que la conscience? Ça, c'est un très gros problème, là, au point de vue critique. Et c'est un problème très intéressant. C'est très intéressant parce que c'est là où je m'aperçois que la phénoménologie ne peut pas remplacer la philosophie. Que la phénoménologie peut être une approche, peut être une pré-philosophie, mais n'est pas une philosophie. C'est un peu analogue aux catégories d'Aristote. Je crois que la phénoménologie, ce sont les catégories intérieures. Oui, c'est comme les catégories intérieures de l'esprit. Alors je peux voir ce dont j'ai conscience et les différents domaines de ma conscience, mais ce n'est pas la philosophie. Pourquoi? Parce que la philosophie, c'est la connaissance des causes. Et dès que mon intelligence atteint une cause, elle va au-delà de sa conscience immédiate. Mais ça, nous le verrons progressivement, une fois qu'on aura vu l'induction. Donc, vous voyez bien, Merleau-Ponty, lui, regarde la conscience immédiate de la phénoménologie. J'ai conscience de penser. Quand je pense, c'est tout moi-même qui a conscience de penser. J'ai conscience d'aimer. In peligo et amo Socratem, comme disait Occam. Je pense et j'aime Socrate. Donc je pense et j'aime Socrate. Ceci, c'est immédiat. Je peux dire que mon intelligence va plus loin. Pourquoi? Parce que la conscience n'est qu'une propriété de mon activité intellectuelle. Si elle est une propriété de mon activité intellectuelle, l'activité intellectuelle peut aller plus loin que la conscience. Elle peut aller plus loin. Ce n'est que certaines modalités de la connaissance intellectuelle qui produisent en moi une conscience immédiate. Mais il peut y avoir une conscience qui n'est pas immédiate, comme il peut y avoir des connaissances qui ne sont pas des connaissances immédiates. Il y a tout un domaine de la connaissance qui s'éloigne de l'immédiateté et qui implique justement un passage d'une donnée à l'autre. Et donc s'il y a un ordre dans la connaissance, ça prouve qu'il y a quelque chose de premier, d'immédiat et quelque chose de second. Et ce qui est vrai de la connaissance est vrai de la conscience, puisque la conscience est une propriété qui suit. Et donc il peut y avoir des consciences qui ne soient pas immédiates, exactement comme il y a des connaissances qui ne sont pas immédiates. Vous voyez un petit peu, hein? nous y reviendrons sur la conscience. C'est simplement pour que vous puissiez saisir mieux ce que nous disions la dernière fois. Alors, je continue. Je vous disais, pour mieux comprendre l'induction de l'âme, ce fameux problème de l'induction de l'âme, qui est un très gros problème. L'induction de l'âme, c'est-à-dire l'induction de la source de toutes les opérations vitales. Je découvre une source. Et je découvre une source parce que, à travers la complexité des opérations vitales, il y a une certaine unité. Et c'est cette unité, à travers la complexité des opérations vitales, que les opérations vitales, dans leur diversité, ne rendent pas compte de cette unité, il faut donc qu'au-delà de la diversité, il y ait une source d'unité. Et cette source d'unité, c'est ce que nous appelons l'âme. Je dis ce que nous appelons. Donc, il faut bien saisir que d'une certaine manière, avant l'induction philosophique, il y a deux types de connaissances pré-philosophique, deux types de connaissances de l'âme. Premier type de connaissances de l'âme, les traditions religieuses. Toutes les traditions religieuses parlent de la distinction de l'âme et du corps. Toutes les traditions religieuses. Alors il y a des traditions religieuses qui refusent la distinction, parce qu'elles sont en face d'autres traditions religieuses qui parlent de la distinction de l'âme et du corps. Parce que ordinairement, il n'y a tradition religieuse que pour montrer qu'il y a une âme immortelle. Et le problème de l'âme immortelle relève donc des traditions religieuses. Alors vous voyez, là, il y a deux problèmes, il y a le problème de l'âme et le problème de l'immortalité de l'âme. Nous y reviendrons. Donc, les traditions religieuses. Nous pouvons tous comprendre par les traditions religieuses. Les traditions chrétiennes, c'est une tradition religieuse. Ça, c'est bien évident. Or, les traditions chrétiennes me parlent de l'âme et du corps. Je regarde le texte de la Genèse, je vois que Dieu forme le corps et qu'il insuffla un souffle dans les narines. Donc, l'âme et le corps. Et deuxièmement, la connaissance affective que j'ai de mon âme. Si je m'aime, je dis bien si je m'aime, parce que si je ne m'aime pas, je ne découvre pas cette connaissance affective de mon âme. Mais il y a une certaine connaissance affective de mon âme. J'aime l'intériorité dans laquelle je me trouve. Sauf si je suis un brigand. Si je suis un brigand, je n'aime pas mon intériorité et j'en ai peur. C'est pour ça que le brigand dans tous les ordres, hein, le brigand n'aime pas d'être seul. Il aime mieux d'être avec un autre brigand. Il aime mieux d'être avec un autre. Pour ne pas être seul, parce que dès qu'il est seul, il est obligé de réfléchir sur ce qu'il est. Et il ne s'aime pas. Et alors, ne s'aimant pas, il ne découvre pas l'intériorité qu'il y a en lui. On aime, au contraire, réaliser des œuvres. Alors, on aime l'efficacité. Celui qui aime l'efficacité ne découvre jamais son âme. Celui qui n'aime que l'efficacité ne découvre jamais son âme. Un monde qui se plonge dans l'efficacité et qui exclut tout le reste est un monde qui perd son âme. Bergson avait très bien saisi ça quand il disait « Notre monde nouveau d'efficacité technique réclame une surâme. » Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui ? Alors ça, c'est très important de comprendre. Vous voyez, c'est pas la mort de l'âme, mais c'est l'enfouissement de l'âme, c'est l'inhibition de l'âme. L'efficacité, c'est le tombeau de l'âme. L'efficacité, donc, qui exclut tout le reste, hein, la pure efficacité, une efficacité complète, enfouit l'âme. Parce que l'efficacité ne regarde qu'une seule chose, le résultat, les effets. Et les effets sont matériels, forcément, sont en dehors de moi. Je ne regarde que ça, que les effets. Je ne regarde que les œuvres. Alors quand je ne regarde que les œuvres, je m'oublie complètement. La source de l'efficacité s'oublie. Et donc l'âme s'inhibe. Ce phénomène de l'inhibition de l'âme, hein, dans notre monde d'aujourd'hui, c'est très très net. Dans un monde, c'est ce qu'on dit, le monde se matérialise. Qu'est-ce que ça veut dire philosophiquement quand on dit ça? Ça veut dire que l'homme ne découvre plus son âme. Ça veut dire que l'homme devient uniquement une machine, devient uniquement un rouage d'une machine très très générale dans laquelle il entre. Il est là uniquement comme un robot. Le jour où l'homme n'est qu'un robot, c'est l'efficacité pure qui commande tout, et il ne regarde plus que son œuvre, que l'efficacité, il oublie son âme. L'oubli de l'âme, il y aurait quelque chose de très intéressant à écrire là-dessus. L'oubli de l'âme dans notre monde d'aujourd'hui. Mais ça rejoindrait Plotin. Ça rejoindrait Plotin. L'Énéade de Plotin 5.1, qu'il ne faut jamais oublier, qui est une chose si belle à lire. L'Énéade 5.1. Quand Plotin fait ce petit examen de conscience, il dit « Mais pourquoi oublies-tu la dignité de ton âme ? Pourquoi oublies-tu ce qu'il y a de divin en toi ? Et que tu te laisses prendre par la distraction ? » Quand on est pris par la distraction, on ne s'aime plus. On est distrait. Le philosophe lutte contre la distraction. Ça, c'est sûr, hein. La philosophie doit normalement vous empêcher d'être distrait. Progressivement, lentement, hein, parce que ça met du temps. Bon, chaque jour, vous gagnez un tout petit peu de temps, un tout petit peu sur le terrain de la distraction. remarqué qu'il y a des moments où on se laisse aller et la distraction alors revient au galop. Hein. Ça, c'est le vieil homme qui revient au galop, c'est la bête qui revient au galop, parce qu'on l'a un tout petit peu trop tiré. Mais c'est vrai que la distraction nous met, voyez, dans le sensible. La distraction nous met dans le sensible, c'est la même chose que les hommes. Il y a le sensible. Le sensible implique l'imaginaire. Les distractions, c'est dans l'imaginaire. C'est l'imaginaire, le lieu de la distraction. Eh bien, le lieu de la distraction comme l'efficacité pure, voilà les deux grands ennemis de l'intériorité. Les deux grands ennemis de l'intériorité, c'est l'efficacité et l'imaginaire. Eh bien, ces deux grands ennemis de l'intériorité font que l'âme se perd. Il y a un oubli de l'âme. Il y a un oubli de l'âme. On n'est plus que dans l'extériorité. On n'est plus que dans la quantité. On n'est plus que dans l'aspect matériel des choses et la juxtaposition des choses. C'est l'imaginaire qui semble, hein, l'imaginaire est une fausse intériorité. C'est une fausse intériorité puisque, de fait, c'est quelque chose qui est tout le temps mouvant. C'est une fausse intériorité parce que ça semble intérieur comparativement au sensible propre, au sensible extérieur, au monde physique. Mais c'est une fausse intériorité parce que ça reste sensible. Ça reste dans le monde sensible, ça reste dans le monde quantitatif. C'est le monde des images. C'est le monde des sensibles communs. Et donc c'est le monde des images au niveau quantitatif. Vous voyez, alors il y a la quantité, la matérialisation d'efficacité et la matérialisation de l'imaginaire. Un monde comme le nôtre, hein, qui est un monde de la télévision, un monde du bruit de la télévision, c'est un monde qui, de fait, nous plonge de plus en plus dans l'imaginaire et fait que l'âme, on oublie. Donc, on vit actuellement de l'oubli de l'âme. Et c'est pour ça que la philosophie du vivant est si difficile à faire. Alors, je pourrais donner un troisième fuite, l'oubli de l'âme. Les sciences biologiques, je dis ça non pas pour les biologistes, mais pour les sciences biologistes. D'abord, faisons attention. La science biologique comme telle peut devenir un instrument d'oubli de l'âme. Parce qu'on croit, avec le positivisme, c'est pas la science biologique en elle-même, mais c'est la science biologique liée au positivisme qui fait qu'on oublie l'âme. Parce qu'on ne voit plus que ce qu'on mesure. Je crois que ce sont les trois sources, vous voyez, de l'oubli de l'âme, qui fait que l'âme devient inhibée. On ne la voit plus, on ne la saisit plus. Alors que les traditions religieuses étaient là pour nous rappeler l'existence de l'âme. Voyez, plus la philosophie s'écarte des traditions religieuses, plus il est difficile de connaître ce que c'est que l'âme. Mais évidemment, il faut bien comprendre, hein, les traditions religieuses, quand elles étaient très liées à des mythes, ce n'était pas non plus très commode. Parce que les traditions religieuses s'enracinent dans les mythes. Alors, le philosophe doit essayer de saisir le logos, ce qu'est le logos par rapport au mythe. Et alors, c'est là où il y a quelque chose de très intéressant à voir. Mais l'existence de l'âme peut être gardée dans les mythes. Tandis que l'existence de l'âme va disparaître dans la mesure où nous avons une culture de pure efficacité, qui n'est plus une culture, du reste. Le milieu dans lequel on est, la pure efficacité, le point de vue imaginaire et le point de vue du positivisme. Oui, le positivisme, du reste, rejoint la matérialisation. Mais c'est quand même deux choses différentes. Je crois que ce sont les trois sources. Si vous en voyez d'autres, vous me le direz. C'est intéressant, ça. C'est intéressant à saisir. Il faudrait faire un petit fascicule sur l'oubli de l'âme. En reprenant parole de Plotin. L'oubli de l'âme. Pourquoi oublies-tu l'âme? Et de voir ces trois sources de l'oubli de l'âme, et comment le philosophe attentif à ça doit redonner le sens de l'âme. Nous devons redonner le sens de l'âme. Nous devons redonner. Il faut essayer de faire que l'âme va émerger, vous voyez ? Émerger de l'efficacité, émerger de l'imaginaire, émerger du positivisme. Pour essayer de comprendre. Comment redonner le sens de l'âme ? Eh bien, redonner le sens de l'âme, c'est par l'amour. C'est l'amour seul qui permet de redonner le sens de l'âme. Pourquoi ? Parce que l'amour, l'amour spirituel, l'amour à l'égard d'une personne, nous fait découvrir l'âme de l'autre. Et en faisant découvrir l'âme de l'autre, me permet de m'aimer. Je crois que c'est la seule manière. C'est pas l'introspection que vous avez qui fait découvrir l'âme. Parce qu'une introspection trop grande risque de nous faire tomber dans l'imaginaire. Oui, la psychologie. C'est la parole efficace. Oui. La psychologie nous plonge très souvent dans l'imaginaire. La psychologie prise comme un absolu. Ça nous plonge dans l'imaginaire. Et donc ça ne nous fait pas du tout redécouvrir l'âme. Parce que c'est les sciences psychologiques, les sciences humaines. Les sciences humaines, hein, avec la biologie, mettez les sciences humaines, c'est intéressant. Parce que les sciences humaines sont très souvent liées avec un positivisme et nous empêchent de découvrir le point de vue de l'âme. Alors comment redécouvrir dans le monde d'aujourd'hui où l'âme... Parce que les sciences humaines sont très souvent liées avec un positivisme et nous empêchent de découvrir le point de vue de l'âme. Alors comment redécouvrir dans le monde d'aujourd'hui où l'âme est tellement inhibée, comment redécouvrir notre âme, avoir une connaissance affective immédiate de l'âme, c'est quand même important. Je crois que c'est très important d'avoir une connaissance affective immédiate de notre âme. Vous qui vivez dans un milieu religieux, le milieu religieux vous oblige d'avoir une connaissance affective de votre âme. Et c'est pour ça que quelquefois on se dit que la vraie philosophie réaliste, elle ne peut plus se faire que dans un certain milieu religieux. C'est très vrai, ça. C'est très vrai pour la philosophie de l'âme. Je crois que la philosophie de l'âme réclame un milieu religieux plus que la métaphysique. Plus que la philosophie de la nature, c'est bien évident. Parce que le milieu religieux nous remet en présence d'une intériorité. Quand on vous demande le silence mystique, pas le silence ascétique, mais le silence mystique, qu'est-ce qu'on vous réclame ? On vous réclame d'aimer votre âme. D'aimer votre âme, c'est-à-dire d'aimer Dieu. En aimant Dieu, vous aimez votre âme. Une recherche d'intériorité qui nous relie à Dieu par l'adoration, puisque le premier amour à l'égard de Dieu, c'est l'adoration, qui remet en nous un climat religieux, nous redonne un sens de notre âme spirituelle. Il faut recréer ça, il faut recréer des îlots d'adoration, de contemplation, où progressivement notre âme va réapparaître. C'est très curieux, ça. Et c'est vrai, ça. C'est un fait que notre monde d'aujourd'hui, d'efficacité, d'imagination, de positivisme des sciences biologiques et des sciences humaines, font qu'on oublie l'âme. Regardez le milieu médical, hein. Parce que c'est quand même intéressant à voir que les médecins devraient être très attentifs à l'âme. Et médecins, c'est pas du tout ce qu'on donne, hein, vis-à-vis des étudiants de médecine. Hein. C'est pas du tout. C'est un milieu qu'on connaît bien. C'est un milieu qui est très difficile pour garder la véritable intériorité et pour saisir la véritable intériorité. Regardez les milieux des psychologues, c'est encore pire. Parce que les biologistes, au moins, ils ont un petit peu de réalisme à l'égard du corps. Tandis que les psychologues, ils sont dans un milieu... Vous voyez, c'est le sable mouvant. C'est complètement le sable mouvant. Eh bien, les psychologues, c'est le milieu où l'oubli de l'âme est le plus fort. Alors que c'est le milieu où l'âme devrait être le plus présent. Puisque ça surgit de l'âme. Toute notre psychologie provient de notre âme, et donc on devrait être toujours présent à la source. Pas du tout. Vous voyez, c'est important de saisir dans notre monde d'aujourd'hui, quand nous faisons de la philosophie du vivant, de comprendre que nous luttons en faisant la philosophie du vivant. Nous luttons contre tous ces aspects qui font que l'âme, on l'oublie. Alors évidemment, hein, quand vous êtes en face de quelqu'un qui nie l'existence de l'âme, ne faites pas tout de suite l'induction de l'âme. Ça ne servira à rien. Mais progressivement, il faut une stratégie. Progressivement, il faut lui redonner un sens religieux. Je crois que quelqu'un qui recommence à avoir un sens religieux commence à avoir une certaine intériorité. Donnez-lui le sens de l'amour d'amitié. Quand on aime vraiment une personne humaine, on aime son âme. On comprend qu'il y a quelque chose en lui qui est plus que la sensibilité. Il y a quelque chose en lui, quelque chose de profond. Et alors, en découvrant la profondeur qui est en lui, on se découvre soi-même parce qu'il nous aime. Et l'amour de l'autre est un appel vers l'âme qui doit sortir de ça. C'est l'amitié, vous savez que c'est l'amour d'amitié qui est le grand moyen de sortir du positivisme. Je crois qu'il n'y en a pas d'autre. Quand vous êtes en face d'un positiviste, biologiste ou psychologue, freudien par-dessus le marché, il n'y a qu'une seule manière, ça j'ai fait l'expérience et ça je peux vous le dire, il n'y a qu'une seule manière de le faire sortir de son freudisme, de son positivisme. Il n'y a qu'une seule manière, c'est l'amour d'amitié. Parce que l'amour d'amitié montre qu'il y a autre chose que le psychisme. Et alors cet amour d'amitié qui fait qu'on aime l'autre, qu'on commence à découvrir ce que c'est que l'autre, l'intelligence de l'autre, les freudiens, quand même, quand ils sont de grands freudiens, ils aiment l'intelligence. Et ils montrent que Freud n'a rien compris à l'intelligence. Alors c'était quand même intéressant de voir ça. Que Freud n'a rien compris du tout à l'intelligence. Il n'a pas compris du tout qu'il y avait quelque chose de plus profond que le psychisme, c'est l'intelligence. Et une fois qu'on a découvert que l'intelligence est plus profonde que le psychisme, on découvre que l'intelligence elle-même est ordonnée à l'amour. Et donc il y a quelque chose de plus profond que le psychisme, l'amour. Mais c'est par l'intelligence qu'il faut le saisir. C'est pas directement. Passer du psychisme à l'amour directement, pour un freudien, c'est impossible. C'est absolument impossible. C'est tellement inhibé dans le psychisme qu'on peut pas. Mais c'est en passant par l'intelligence. Alors en passant par l'intelligence, on peut leur faire comprendre qu'il y a quelque chose de plus profond que le psychisme, l'intelligence. C'est pour ça que je les agaçais toujours en leur demandant « Est-ce que vous pouvez découvrir avec votre psychanalyse le premier moment de l'éveil de l'intelligence ?» Ils ont été obligés de me dire non. Alors, j'ai trouvé les limites de votre analyse. Parce que c'est quand même intéressant de voir l'éveil de l'intelligence. Dans l'éducation, c'est capital. Il y a l'éveil du cœur et l'éveil de l'intelligence. Alors je leur disais à ce moment-là, vous croyez que vous saisissez le premier moment de l'éveil du cœur, non? Oui, c'est le premier moment des nœuds. Vous saisissez le premier moment du déraillement. Mais saisir le déraillement, c'est pas saisir la ligne droite. Quand on saisit le déraillement, on saisit quelque chose d'important, c'est évident, c'est intéressant de voir un déraillement. Mais c'est pas le déraillement qui nous donne le sens de ce que représente l'orientation profonde de la vie humaine. Vous voyez, c'est important de saisir qu'il y a pour nous une manière d'éveiller à ce que représente cette affectivité profonde de l'amour de notre âme. Nous aimer. Vous comprenez comment, quand il n'y a plus d'amour de l'âme, comme le suicide peut être proche. Parce que si on aime son âme, on ne peut plus se suicider, c'est impossible. Tandis que si on n'aime pas son âme, mais alors évidemment, quand vous êtes en face d'une impasse psychologiquement, quand vous êtes devant une souffrance psychologiquement, vous n'avez qu'un seul désir, c'est d'en finir. Et il n'y a pas l'amour de l'âme qui empêche cela. Oui, c'est comme l'amour d'un ami empêche de se suicider. Et l'amour de nous-mêmes nous empêche de nous suicider. C'est l'amour qui peut seul nous permettre de lutter contre cette tentation violente du suicide. Cette tentation de supprimer du nihilisme, pas du suicide, de dire qu'on veut arrêter la chose. C'est pour ça que c'est si important, vous voyez, de saisir cette connaissance affective de l'âme, lutter contre l'oubli de l'âme. C'est peut-être la première chose qu'on doit faire dans notre monde d'aujourd'hui. C'est peut-être la première chose, vous voyez. Quand je voyais Marois qui me disait qu'il avait fondé l'Institut de la vie, je lui avais dit très bien l'Institut de la vie, mais vous ne sauverez pas l'âme par la biologie. Vous ne sauverez pas la vie par la biologie. Alors il m'a regardé, attentif. J'ai dit non, il faut aimer l'âme spirituelle. C'est l'âme spirituelle qui peut seule sauver la vie. Mais dans un monde où, de fait, hein, l'âme spirituelle est complètement inhibée, ce n'est pas l'Institut de la vie qui peut sauver la vie. C'est quelque chose qui va plus loin, c'est de découvrir l'âme spirituelle. C'est ça qu'il faut, autrement il y a un oubli. Oui, alors, qu'est-ce que c'est que cette connaissance affective de mon âme spirituelle? J'ai montré l'aspect négatif par où si facilement on l'oublie, et c'est important de comprendre cela. Qu'est-ce que c'est que cette connaissance affective de mon âme spirituelle? Vous comprenez que cette connaissance affective de mon âme spirituelle, elle se fait à travers mes opérations. Je n'ai pas une connaissance affective de mon âme pris substantiellement en elle-même. J'ai une connaissance affective de mon âme présente à mon corps, présente à toutes mes activités. C'est la connaissance affective d'une présence qui anime tout, d'une présence qui fait que tout prend vie. C'est le cas de le dire, hein, parce que c'est vraiment ça. C'est la connaissance affective d'une présence qui fait que tout prend vie. Il suffit que vous soyez là, présent, pour que tout change. C'est ça la présence. Parce que, autrement, ce n'est pas une présence. La présence, c'est celui, c'est très mystérieux ce que c'est que la présence, hein. Quand on étudie philosophiquement ce que c'est que la présence, parce que la connaissance affective, c'est toujours une connaissance d'une présence, hein. C'est le propre de la connaissance affective. Ramener le problème de la connaissance intellectuelle à la présence, c'est ramener la connaissance intellectuelle à la connaissance affective. La connaissance affective, c'est la connaissance d'une présence. La présence, c'est une relation. Vous savez bien. C'est une relation, la présence. C'est un face-à-face. On est présent à quelqu'un. On n'est pas présent à une idée. On n'est pas présent à un principe. C'était Père Garrigou qui disait, quand vous êtes fatigué, faites une grande promenade avec un principe. Voilà, ça se voit très très bien. Vous portez le principe sur vous, vous faites une promenade avec vous. Mais il dit ça sérieusement, le bon Père Garrigou. Il faisait faire une présence, faire une promenade avec un principe. Non, j'aime mieux faire la promenade avec quelqu'un qui est une personne. Hein. J'aime mieux ça que d'un principe, parce que un principe, je n'ai pas besoin de faire de promenade. Je n'ai qu'à réfléchir sur le principe. Je réfléchis sur le principe, mais je ne fais pas de promenade avec un principe. Tandis que je me promène avec une personne. Ah oui, on se promène avec un ami. On se promène avec quelqu'un qu'on aime. C'est une présence. La présence, c'est une personne. C'est une relation à une autre personne. Je suis avec quelqu'un. Avec quelqu'un qui m'aime, avec quelqu'un qui s'intéresse à moi, avec quelqu'un qui n'est pas indifférent, avec quelqu'un qui je sais, capte les moindres détails. Et si tout d'un coup, cette personne n'est plus présente, il dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Tu n'es pas présent. Hein? Tu n'es pas présent, qu'est-ce que ça veut dire? Tu es comme un étranger, tu n'es pas présent. Quelque chose. Le contact qui a diminué. Un contact qui a diminué. Un contact qui fait qu'on est comme lointain. On est présent dans la mesure où l'on agit sur quelqu'un. La présence est un résultat. Hein. On est présent dans la mesure où l'on agit sur quelqu'un. Dans la mesure où on agit sur l'intelligence de quelqu'un. Quand quelqu'un vous raconte quelque chose de passionnant, Ben, il est présent. On est présent dans la mesure où on agit sur son imagination. On est présent dans la mesure où on agit sur son cœur. Alors là, c'est la présence suprême. Quand on agit sur le cœur de quelqu'un, on est parfaitement présent. Alors, le cœur de l'ami, c'est collé au cœur de l'ami, selon l'expression de l'Écriture. C'est cette expression si forte. Le cœur de l'ami est collé au cœur de son ami. Pourquoi ? Parce qu'il l'aime. Et l'amour fait cette chose plus forte que toutes les colles. C'est quelque chose de plus puissant parce que c'est intérieur. Notre cœur est liquéfié, comme dit saint Thomas. Le cœur de saint Thomas s'est liquéfié de temps en temps, n'est-ce pas ? Alors notre cœur est liquéfié par l'amour de l'ami. Et parce que le cœur est liquéfié par l'amour de l'ami, à ce moment-là, la présence est une présence intime, une présence profonde, grâce à l'amour et par l'amour. Le fondement de la présence, c'est l'amour. Le fondement de la présence, c'est la connaissance amoureuse. Le fondement de la présence, c'est l'attention qu'on a l'un vis-à-vis de l'autre, grâce à cet amour. J'agis sur l'autre, l'autre pâtit à cause de mon amour, et il y a entre les deux une présence. Et une présence qui est plus ou moins intense, suivant l'intensité même de l'amour. Une présence qui est plus ou moins grande, suivant que mon activité intellectuelle est plus ou moins forte sur celui qui reçoit. Alors il y a une présence. On s'entend tout de suite, hein. Vous verrez ça plus tard quand vous, dans votre prédication ou dans votre enseignement. On sent tout de suite ceux qui sont présents et ceux qui sont absents. C'est terrible, ça. Là, on pourrait mettre des mots. Absent, depuis 5 minutes. Présent. C'est effrayant, vous voyez. Parce que dès que quelqu'un est distrait, il est absent. Tout de suite, et on le ressent, si on est suffisamment... Si on est sensible à la chose qu'on fait. Si on est sensible, c'est-à-dire si on est présent à la chose qu'on fait. Parce qu'évidemment, on peut réciter son cours. Alors ça m'est égal, hein. Comme disait l'autre, vous pouvez dormir, moi je fais mon métier, je récite mon cours. Alors on lit son cours depuis le début jusqu'à la fin, mais entre la personne et celui qui dit, il y a le cours. C'était ce que faisait... admirablement les étudiants du Solchoir en disant il y a deux espèces de professeurs, les professeurs qui aiment leurs cours et les professeurs qui aiment les étudiants. Alors on voit tout de suite la différence. Les professeurs qui aiment leurs cours, ils donnent leurs cours, il faut leur donner une heure, ça passe très bien. Le tout c'est de parler pendant ce temps-là, autant que possible dire des choses qui soient intelligentes, que vous écoutiez ou que n'écoutiez pas. Tandis qu'au contraire, celui qui aime les étudiants, alors il est présent. Et il essaie à travers cet amour de communiquer quelque chose pour toucher l'intelligence. Et c'est en tenant l'attention qu'on touche l'intelligence. Mais c'est très vrai ce que c'est que la présence. C'est une chose très étonnante. C'est la connaissance affective. C'est tout le domaine de la connaissance affective qui fait qu'on est présent l'un à l'autre. Alors comprenez bien, mon âme est présente à moi-même. C'est pas la dualité. Mon âme est présente à moi-même. Elle est présente dans la mesure même où j'aime, dans la mesure même où je connais. Et comme je connais parfaitement dans la contemplation, comme je connais parfaitement dans l'adoration, et que j'aime dans l'adoration et que je connais dans la contemplation, j'ai à ce moment-là une présence la plus grande qui soit. C'est donc, voyez, les opérations religieuses qui me donnent la plus grande présence de mon âme. Puis après, c'est l'amitié. Mais c'est les opérations religieuses qui me donnent la plus grande présence de mon âme. Mon âme émerge de l'imaginaire. Mon âme émerge du psychologisme. C'est curieux, ça. Et je la saisis comme présente. Et alors, je suis présent à moi-même. Je suis présent à moi-même et j'aime cette présence profonde qui est la présence de mon âme. Vous voyez, alors, cette connaissance affective que j'ai, hein, par où mon âme est présente à moi-même, par où je découvre cette présence de mon âme, cette connaissance affective, elle repose sur mes capacités d'aimer. Mais sur l'amour actuel, pas mes capacités d'aimer, sur l'amour actuel et sur la connaissance actuelle. Si je ne connais plus et si je n'aime plus, Il n'y a plus cette présence. Mais cette présence a existé. Il suffit qu'on ait eu une fois cette présence de son âme pour qu'il y ait une expérience de cette présence. Et pour dire ça, je ne peux pas le nier. Il y a quelque chose en moi qui est cette intériorité qui se creuse. Et plus j'aime profondément, plus je connais profondément, plus l'âme est présente à moi. C'est comme un infini. Il n'y a pas de limite à cette connaissance affective de l'âme. Il n'y a pas de limite. Alors c'est ça qui fait comprendre, vous voyez, ce qu'on appelle la mystique naturelle. Ce qu'Olivier Lacon appelle la mystique naturelle, et je crois qu'il a raison. Il y a une mystique naturelle, et la mystique naturelle, c'est l'amour de mon âme. Mais dans mon âme, dans ce qu'elle a de plus profond, dans sa plus grande capacité d'aimer, dans sa plus grande capacité de connaître, c'est de connaître cet abîme qui est dans mon âme. Il y a un abîme dans mon âme. Et alors quand cet abîme émerge, vous voyez, terrain volcanique, hein, quand cet abîme émerge par un grand amour, par une grande connaissance contemplative, à ce moment-là, il y a une connaissance très profonde de mon âme, dans ce qu'elle a de plus profond. Il y a comme un toucher affectif, aimant, de ma connaissance à l'égard de moi-même. Et comme c'est quelque chose d'absolu, je peux dire qu'il y a une connaissance mystique. Surtout si ça se réalise à l'intérieur d'un climat de tradition religieuse, parce que je peux dire qu'en touchant ce qu'il y a de plus profond en moi, je touche ce qu'il y a de plus divin. Et alors à ce moment-là, très facilement, il y a la confusion entre l'expérience mystique de mon âme et l'expérience qu'on prétend être de Dieu. Mais il y a une connaissance mystique de l'âme, hein, philosophiquement parlant. Et cette connaissance mystique de mon âme n'est pas le toucher à l'égard de Dieu, c'est le toucher de mon âme dans sa profondeur. C'est le toucher de l'abîme de l'âme. L'abîme de l'âme du côté de la connaissance et du côté de l'amour, liant à deux. À travers l'expérience religieuse de l'adoration et de la contemplation. Alors cette expérience, elle est capitale parce que vous comprenez que dans la mesure où j'aime cette source cachée, je désire savoir ce qu'elle est. Et c'est pour ça que cette connaissance affective va être le grand moteur de la recherche philosophique.